Bonjour à tous. C'est avec grand plaisir et une immense joie d'être parmi vous aujourd'hui. Je veux dire merci à Anne-Marie Lambert, ma professeure de français à l'Institut biblique que vous connaissez peut-être, qui m'a beaucoup encouragé à parler la langue française. C'est ma troisième année ici en France, à l'Institut biblique. En fait, mon accent n'est pas vraiment français, mais j'essaie d'imiter un peu la langue française, puisque je suis en France. Parce que le R chez nous, on ne peut pas la rouler. Si on ne la roule pas, en France, on ne nous comprend pas. Anne-Marie le sait. Mais aujourd'hui, je peux dire et rendre gloire à Dieu que je suis ici depuis 3 ans. Et je vais remercier le Seigneur. Je veux aussi remercier l'Église qui nous a accueillis aujourd'hui. Merci à Clément qui m'a envoyé un message pour dire de prêcher aujourd'hui sur le thème de Timothée. 2 Timothée chapitre 4 verset 1 à 8. Merci beaucoup à l'Église, à Francis aussi qui a pris la présidence. Merci beaucoup pour la louange. Ça nous a beaucoup touchés. Pour une fois, moi et ma petite famille, nous sommes ici pour 3 ans. Mon épouse, elle est là-bas, elle est en bleu. Je ne sais plus de se lever. Ma fille, elle est juste à côté. Elle est en orange, peut-être. Christa et Bettina. Nous tous, on vient de la Polynésie française. Je suppose que vous connaissez. C'est Tahiti. Si vous ne connaissez pas, si vous suivez l'émission de Koh-Lanta, vous connaissez peut-être Tehéoura. Voilà. Et celui-là, il vient de la Polynésie française. Nous, nous venons tous de là-bas. Et c'est notre troisième année. Ce n'est pas notre dernière année. Il nous faut encore 1 an pour terminer l'Institut biblique. Pourquoi? Parce que j'ai divisé mes études en 2 années. En deuxième année, j'ai divisé les études en 2 ans pour que je puisse encore étudier plus tranquillement, plus sagement les Écritures. Comme vous avez entendu notre accent, moi en Polynésie, je suis pasteur dans mon église, dans une église que j'ai implantée en 2010. Et aujourd'hui, me voici en France, envoyé par l'Église. Une question m'a été posée par Francis. Est-ce que tu vas rester en France? Je lui ai répondu que non. Je suis obligé de rentrer. Même mon pays a besoin d'être évangélisé. Merci beaucoup à vous tous qui nous a accueillis avec un accueil très chaleureux. Lorsqu'on parle de couronne, c'est qu'il y a une victoire, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas de victoire sans combat. Je pense. Il n'y a pas de victoire sans combat. Alors que le monde a le regard fixé sur les dieux du stade, à l'occasion des Jeux Olympiques qui se déroulera au Brésil dans quelques jours, cet événement renommé mondial devrait nous sensibiliser et nous rappeler que nous aussi, nous sommes dans la course avec le Seigneur. Une course qui permettra au vainqueur d'être sur la plus haute marche. La plus haute marche que l'homme puisse atteindre grâce à Dieu. Être dans la présence du Seigneur pour l'éternité. Cette compétition, bien sûr, contrairement à celle qui se passe dans les divers stades, ne met pas en concurrence ceux et celles qui y participent, bien au contraire. Dans cette course, dans cette marche, nous sommes tenus de soutenir ceux qui sont les plus faibles et non pas les devancer afin d'obtenir une meilleure place. En effet, dans cette marche, bouge pas, il va risquer de tomber. Excusez-moi. Merci, Francis. Cette compétition, contrairement à celle qui se passe dans les divers stades, ne met pas en concurrence ceux et celles qui y participent. Bien au contraire, dans cette course, dans cette marche, nous sommes tenus de soutenir ceux qui sont les plus faibles et non pas les devancer afin d'obtenir une meilleure place. En effet, dans cette marche, il ne sert à rien de jouer des coudes pour passer devant les autres. Car la place gagnante est toutes celles qui auront été fidèles jusqu'au bout. Comme vous le savez, il n'y aura pas de seconde place. Il n'y aura pas non plus de troisième place. Il n'y aura pas non plus de lot de consolation. Car il n'y a qu'un seul royaume. Et c'est le royaume, celui de Dieu. Comme nous avons lu dans 2 Timothée 4, versets 1 à 8, et je ne vais pas vous les relire puisqu'on a lu tous ensemble, je vous demande tout simplement de suivre les écritures qui sont affichées. Ici, chers amis, nous sommes dans les derniers chapitres de 2 Timothée. Nous sommes aussi à la fin de la vie de l'apôtre Paul. Dans ce chapitre, nous avons les dernières paroles de l'apôtre. Ces paroles auraient été écrites pendant les derniers jours et heures de sa vie, juste avant qu'il ne soit exécuté à Rome. Si nous tournons notre attention au verset 7, nous trouvons le commentaire final de Paul sur son ministère. C'est le ministère auquel il a consacré plus de 30 ans de sa vie avec une passion et une ferveur qui fait tourner la tête. Il peut regarder en arrière et dire, j'ai combattu le bon combat. Je suis allé jusqu'au bout de la course et j'ai gardé la foi. Nous pouvons résumer son ministère en disant, Paul a bien fini sa course. Il pouvait regarder en arrière son ministère, confiant qu'il avait fait tout ce qui lui avait été demandé. Au moment où il écrit à Timothée, il faisait face à la mort. Paul faisait face à la mort. Mais il était conscient du fait que son départ au ciel, d'être avec son Seigneur et de recevoir la couronne du salut, serait le résultat de cette persévérance. Paul, ici, a bien fini sa course. Paul dit aussi, mais toi, garde la tête froide, comme nous aussi gardons la tête froide en toutes circonstances. Il semblait que ceux et celles autour de Timothée étaient en train de perdre le sens de la réalité de l'Évangile. Cette perte de sens de la réalité est due aux fables, aux légendes, aux fantaisies, aux nouvelles idées religieuses qui étaient vraiment attirantes pour les oreilles, qui est dit dans le verset 4. Il y a longtemps, j'ai entendu une phrase très simple. Quand vous arrêtez de croire en Dieu, vous ne croyez pas en rien. Et quand vous entendez ça, vous croyez en n'importe quoi. Tout autour de Timothée, il y avait ceux et celles qui se détournaient de la vérité. Peut-être croyait-il en Dieu encore, mais est-il en train de se détourner de Dieu? Il se jetait dans n'importe quelle croyance. Mais Timothée devait être différent. Timothée devait être différent. Il devait s'accrocher à la vérité de la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'il devait garder la foi. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, d'après les Ecclésiastes. Timothée, en tant que prédicateur et pasteur, a dû enseigner contre les idées fausses, les mensonges et les fables idées qui surgissent encore aujourd'hui dans notre monde, dans notre pays, dans notre nation. Ce n'est qu'en connaissant la parole de Dieu que nous pouvons anticiper les erreurs. C'est seulement en gardant la tête froide que nous pouvons espérer les combattre et les vaincre. Il faut développer le toucher fin de la vérité pour reconnaître le mensonge quand il se présente et garder la tête froide. Puis nous devons parler de la souffrance. Paul était encore prisonnier, comme j'ai déjà dit. Il s'attendait à son exécution. Paul parle souvent de la souffrance. Paul encore a souffert pour l'Évangile. Nous trouvons un résumé de ces souffrances dans les épîtres de 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 24 et suivant, qui est dit « 5 fois j'ai reçu des Juifs la série de 39 coups. 3 fois j'ai été combattu à coups de fouet par les Romains. Et 1 fois on m'a blessé en me jetant des pierres. 3 fois j'ai fait naufrage et 1 fois je suis resté 1 jour et 1 nuit dans les flots. Dans mes nombreux voyages, j'ai connu les dangers, dus aux rivières qui débordent ou aux brigands, les dangers dus au désert, en danger sur la mer et en danger parmi les faux frères. J'ai connu des travaux pénibles et de dures épreuves. Souvent, j'ai été privé de sommeil. J'ai eu faim et soif. Souvent, j'ai été obligé de jeûner. J'ai souffert du froid et du manque de vêtements. Paul, lui, a connu la souffrance. Il s'est attendu à la même chose pour Timothée. Est-ce pareil pour nous aujourd'hui? Est-ce pareil pour nous? Nous allons souffrir pour notre foi. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut chercher à souffrir parce que nous pensons pas avoir assez souffert. Paul aurait pu éviter la souffrance en compromettant l'évangile. Donc c'est évident qu'il aurait pu faire cela. Et c'est évident aussi qu'il ne l'a pas fait. Mais je ne doute pas de la tentation de compromettre était là pour Paul et aussi pour Timothée. Je ne doute pas non plus que nous sommes tentés aujourd'hui de la même manière. C'est la tentation d'éviter la souffrance en coupant d'eau l'évangile, juste un tout petit peu. La dernière chose que Paul dit, c'est que nous devons remplir notre ministère. Paul ne promouvoit pas l'activisme ici. Il n'est pas bon de s'agiter en tous sens, pour faire tout et n'importe quoi, même avec le désir de servir le Seigneur. Nous avons simplement un appel à la persévérance. Nous sommes des coureurs de marathon et non pas des sprinteurs. Les coureurs de marathon ne maintiennent pas le même rythme tout au long de la route. C'est pareil pour nous. Nous allons avoir des temps où nous ralentissons, peut-être à cause de la fatigue. Et puis nous allons avoir des temps où il semble qu'il n'y a rien qui pourrait être nous arrêter. Mais dans tout cela, ne nous arrêtons pas. En parlant du sujet, comment bien finir sa course ou comment avoir cette couronne, je veux éviter l'inquiétude. Peut-être vous avez pensé, vous, mais si je ne finis pas, je voudrais dire tout brièvement que je crois que la Bible nous enseigne que si nous sommes réellement nés de nouveau, nous allons finir. Nous allons persévérer jusqu'au bout. L'évidence que nous sommes nés de nouveau se voit dans ce travail d'un évangile. Et nous remplissons bien notre ministère. Ces choses ne nous gagnent pas notre salut, mais elles prouvent son réalité. Et elles servent à nous assurer que nous allons achever la course et recevoir la couronne du salut. Ainsi, chers amis, que tu sois faible ou fort, par le simple fait que tu t'es engagé dans la marche avec Dieu, en acceptant Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de notre vie, que tu restes fidèle à ton engagement en faisant tout ton possible pour aller droit devant toi. Tu as l'assurance d'obtenir le prix de ta consécration. Le même prix que celui qui a accompli des prodiges au nom de l'Éternel. Le même prix que le brigand repentant sur la croix. Tant que tu resteras dans la course, tu es certain d'avoir la victoire. Car le Seigneur Jésus sera toujours là pour t'encourager, te soutenir dans les moments de faiblesse. Il sera là même pour te porter au bout du chemin si tu es blessé par la vie. Garde le désir de marcher en vainqueur, même lorsque tu sens tes forces t'abandonner. Ne saute pas la barrière pour montrer au monde que tu abandonnes, mais au contraire, crie au Seigneur. Crie au Seigneur afin qu'il te renouvelle. Parle-lui de ton désir de poursuivre la course, mais qu'à cause de ta faiblesse, tu as besoin d'être fortifié. C'est alors que tu verras les promesses divines s'accomplir en ta faveur. Car dans le prophète Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 40, verset 29, il dit, « Il donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Sa parole est la vérité parce qu'il ne peut pas mentir. À ton tour, tu pourras t'écrier. » Comme ces athlètes, les athlètes qui se sont engagés pour gagner une médaille, nous, nous sommes aussi engagés dans le chemin que le Seigneur Jésus nous a tracé afin de gagner la place qui a été réservée aux fidèles témoins. Nous nous sommes engagés. Je me suis engagé. Vous vous êtes engagés pour marcher en vainqueur afin d'obtenir cette couronne incorruptible qui est promise à ceux et celles qui ont gardé la foi. Marcher en vainqueur en triomphant du monde et de ces tentations qui nous interpellent sans cesse pour nous ralentir dans notre marche avec Dieu. Dans les jeux du stade ou lors des diverses compétitions sportives, plusieurs sportifs s'engagent dans le simple but de participer, car ils sont conscients qu'ils n'ont pas le niveau adéquat pour obtenir le prix que le meilleur convoite. C'est ainsi qu'au travers des paroles réconfortantes, on félicite les perdants aussi, en leur disant que l'important n'était pas de gagner, mais de participer. Comme nous aujourd'hui, l'important, pour moi surtout, ce n'est pas d'obtenir un diplôme, mais d'avoir la foi et de croire en Dieu, de nous donner tout à lui. Il n'y a aucune consolation, aucune couronne pour ceux qui ne vont pas jusqu'au bout de leur engagement. Ceux qui ne franchissent pas la ligne d'arrivée en vainqueur. Les chrétiens non pratiquants ou les chrétiens de nom ne sont pas des véritables disciples de Christ, comme le patronyme le laisserait supposer. Ils n'obtiendront jamais le prix qui récompense une course à laquelle ils n'ont pas participé. Il y a trop de gens aujourd'hui qui se proclament chrétiens, mais qui, en réalité, ne sont que des simples figurants, qui ne sont jamais engagés pour le royaume de Dieu, qui n'ont jamais voulu combattre sous la bannière de Christ avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Des figurants utiles pour réjouir un metteur en scène qui désire avoir le plus possible d'acteurs et de marionnettes, qu'il pourra manipuler en leur offrant ce que leur cœur désire dans un monde présenté comme un paradis terrestre, un paradis artificiel où tout est contrefaçon. Satan, lui, aime et dorlote ces figurants, qui s'imaginent qu'ils seront bien accueillis à la fin de leur jour, alors qu'ils n'ont pas combattu le bon combat de la foi. Il est dit dans l'évangile de Matthieu, « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. » Matthieu, chapitre 11, verset 12. Et dans l'Apocalypse, il est dit aussi, « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part seront dans l'étang ardent de feu et de soufre. ce qui est la seconde mort. Apocalypse, chapitre 21, verset 8. Chers amis, il n'y a que deux catégories d'acteurs dans le monde. Deux camps que le Seigneur Jésus définit clairement, afin qu'il n'y ait pas la possibilité de se tromper. Jésus dit, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Matthieu, chapitre 12, verset 30. Ainsi, ce bon nom de chrétien que nous portons est souvent sali par la conduite de pseudo-chrétiens qui marchent en ennemi de la croix, qui s'acharnent contre les saintes écritures, esclaves du prince des ténèbres. Ils tordent le sens de la parole de Dieu afin de satisfaire leur passion coupable tout en donnant au monde païen les libertés qu'ils réclament. Beaucoup trop ignorent que la réalité de la vie chrétienne est un engagement permanent qui consiste à persévérer, à tenir ferme dans la foi, à se faire violence afin de ne pas tomber dans toutes sortes de tentations qui arrêterait la marche de celui qui a décidé de s'engager pour Christ. Cette vie de foi et d'obéissance qui nous est demandée ne conduit pas nos pas sur un tapis de mousse, tendre pour épargner notre délicatesse, notre fragilité. Il n'y a aucun sportif digne de ce nom qui s'entraîne en entretenant sa faiblesse. Au contraire, les athlètes font tout leur possible pour venir à bout du point faible qui pourrait les handicaper lors de la compétition. Ce désavantage qui pourrait être un frein au moment décisif où il faut donner un sérieux coup de collier pour vaincre l'adversaire. Voici quelques questions que je vais vous poser. Quels sont nos points faibles à nous? À nous qui sommes encore dans la course. Quel est mon handicap? Quel est votre handicap? Quelle est la faiblesse que j'entretiens? Le péché que je ne veux pas confesser? Qu'est-ce qui pourrait me faire chuter au risque d'abandonner la course, comme quelques-uns l'ont déjà fait, et qui sont devenus ennemis de Christ, comme nous l'avons entendu dans les infos? Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle encore maintenant et encore en pleurant. L'enfer sera la perdition. Ils n'ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Tout ça, c'est écrit dans l'Épître des Philippiens, chapitre 3, versets 18 et 19. Afin que nous ne perdions pas de vue l'objectif à atteindre, chers amis, gardons les yeux fixés sur le chef et le consommateur de la foi, qui est Jésus-Christ. Les yeux sur sa parole. Restons attentifs à ses commandements. Nous entraînons jour après jour à la lecture des Saintes Écritures, à la prière, au partage fraternel, aux communions fraternelles, etc. etc. Nous fortifions afin de pouvoir résister à l'ennemi qui n'hésitera pas à nous faire un croche-pied pour que nous tombions dans la discorde. Encouragés par le Seigneur, renouvrés par lui, allons de l'avant comme le coureur qui ne voit que la ligne d'arrivée au bout, qui lui permettra de recevoir la récompense. S'il la passe en vainqueur, cette récompense qui sanctionnera une vie de sacrifice, une vie de consécration. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté la course, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été Jésus, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, sœur, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oublions ce qui est en arrière et me portons vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est Philippiens qui le dit. Nous aussi, nous avons tous un but. Et ce but, c'est la croix et le retour de Jésus-Christ. Ce n'est pas sans raison que l'apôtre Paul met en parallèle la discipline des sportifs avec celle que l'enfant de Dieu devrait avoir. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font obtenir une couronne corruptible. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 25. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, nous dit-il encore dans ses épîtres. Les enfants de Dieu qui sont dans la course doivent donc s'identifier. Et c'est vrai, sportifs qui sont prêts à tous les sacrifices possibles pour obtenir la victoire. Et vous, êtes-vous prêt à faire cette course avec Jésus-Christ? Êtes-vous prêt à donner votre vie à Jésus-Christ? Sans discipline chrétienne, il est peu probable que l'on puisse marcher longtemps dans la bonne direction. Car ce comportement négatif montre que nous ne vivons pas entièrement pour Christ, que nous n'avons pas conscience de la valeur de sa mort sur la croix. Si Christ n'est pas le centre de notre vie, nous passons aussi à côté de la discipline divine destinée à élever l'homme nouveau au détriment de notre vieille nature. Sans discipline, sans désir de marcher pour Christ et avec lui, sommes-nous véritablement ses disciples? Je vous laisse répondre ça dans votre cœur. Beaucoup disent aimer le sport. Beaucoup disent d'aimer le sport. D'ailleurs, le nombre de spectateurs présents aux Jeux Olympiques est là pour nous montrer cette réalité de même. De tous ces milliards de spectateurs anonymes derrière le petit écran de télévision, ils disent aimer le sport, mais les vrais sportifs sont dans l'arène. Les vrais sportifs combattent pour la victoire. Ils ne sont pas affalés dans leur fauteuil avec un sandwich à la main, une bouteille d'eau, une bouteille de bière, une bouteille de soda dans l'autre. Ils ne sont pas ces amateurs qui transpirent, qui s'époumonnent dans les stades et qui hurlent de joie. On a gagné! On a gagné! Alors qu'ils n'ont rien gagné du tout. Les vrais sportifs sont ceux qui se sont engagés et qui combattent pour être victorieux. Beaucoup se réclament de la foi chrétienne. D'ailleurs, il suffit de consulter les régiles de notre Église pour se rendre compte qu'ils se disent chrétiens, mais ne font rien pour montrer qu'ils sont bien dans le troupeau du Seigneur. Je parle en moi-même d'abord. Sans doute, manifeste-t-il à certaines occasions, comme Noël ou Pâques, leur attachement à l'image du christianisme. Mais ils ne sont pas dans le chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Parfois, ils vibrent et applaudissent ou versent une larme quand leurs sentiments sont profondément touchés. Ces attitudes n'ont aucune valeur aux yeux du Créateur qui demande d'abord ce que l'individu reconnaisse, qu'il est un pécheur, que nous sommes pécheurs et qui a besoin du pardon de Dieu au travers de l'œuvre du Christ. Nous sommes tous pécheurs. En dehors de cette base, aucun homme, aucune femme ne pourra prétendre à la couronne incorruptible. N'ayons pas marché dans le chemin étroit, ni suivi les règles prescrites par le Seigneur. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sur le soleil aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés, dans le livre des Actes. Comment échapperons-nous aux négligents un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qu'on a entendus. Hébreux, chapitre 2. Pour terminer, chers amis, si nous sommes engagés dans cette course qui doit nous conduire jusque dans la vie éternelle, veillons à ne pas nous arrêter en chemin ou à nous faire arrêter par des adversaires ou des soi-disant sympathisants qui pourraient nous voler le prix de notre engagement, qui est écrit dans Colossiens, chapitre 2. Quoi qu'en disent les médias, souvenons-nous que l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais que la piété est bénéfique pour tous. Exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. L'épître de la lettre à Timothée, 1 Timothée chapitre 4. C'est en effet une grande course, une grande source de gain que la piété avec le contentement. 1 Timothée chapitre 6. Chers amis, courons tous ensemble. Allons chercher cette couronne. Combattons tous ensemble pour avoir cette couronne, pour avoir une place avec Dieu, pour avoir une place que même Jésus nous a déjà réservée. S'il n'y avait pas de place, j'irai vous chercher une place. Oui, le Dieu, notre Père, nous a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui. Il est mort sur la croix pour nos péchés. Il est ressuscité 3 jours. Donnons tout ce que nous avons dans notre cœur à Jésus-Christ. Oui, les amis, nous ne pouvons pas avoir de couronne sans victoire. Et nous n'avons pas de victoire sans combat. Donc, combattons tous ensemble pour la victoire. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Hébreux, chapitre 12, verset 1. C'est le dernier verset que je voulais vous laisser. Amen. Que Dieu vous bénisse.